Bonsoir mes frères et sœurs. Quelle grâce de nous retrouver sous le regard du Seigneur. Vous êtes conscients que c'est une grâce? Eh bien oui. Alors nous avons partagé une prophétie, un verset dimanche. Vous vous rappelez du verset que nous avons partagé dimanche? Vous vous rappelez? Luc 21, « Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre. » Voilà, c'était la parole de Dieu, « Veillez et priez afin que vous ayez la force. » Le seul moyen d'être prêt, parce qu'il y a des fois des chrétiens, « Monsieur Gou, est-ce que je serai prêt quand Jésus reviendra me chercher? Est-ce que vous veillez? Est-ce que vous priez? » Oui, Monsieur Gou, tous les jours. Eh bien, vous serez prêt. Pas une question de sentiment, de personnalité extraordinaire, de caractère particulier, supérieur à la moyenne, c'est une question de spiritualité. Ne vous imaginez pas, parce que vous seriez supérieur en caractère, que vous êtes mieux capable d'être prêt. Non, c'est une question de spiritualité. Pour être debout, pour résister à la tentation, pour affronter les épreuves, toutes les épreuves, parce qu'il y a des épreuves, il y a plusieurs graduations dans les épreuves, mais toutes les épreuves, pour être fort, pour être en bénédiction aux autres, pour bénir les autres, pour porter les autres. Est-ce que c'est important de porter les autres? Madame Bourdelle, tout à l'heure, priez pour tous les pasteurs qui sont épuisés, découragés. Mais ça, c'est des prières qui plaisent à Dieu. Est-ce que ça peut arriver qu'un serviteur de Dieu soit découragé? Eh oui, ça arrive. Moi, j'en ai vu un autre jour qui a dû démissionner, tellement il est épuisé. On ne peut pas lui reprocher son manque de spiritualité. Mais il y a de véritables combats. Et quand je prie, Je porte les autres. Quand il est dit « supportez-vous les uns les autres », c'est pas « qu'est-ce qui me saoule, il me faut vraiment le supporter ». Non, ça veut dire « je dois le porter ». Supportez-vous, c'est « portez-vous les uns les autres ». Pour avoir de l'assurance, tiens donc, on va parler sur la prière et sur les dangers de ce qui se passe lorsqu'on ne prie pas. Mais est-ce que c'est important d'avoir de l'assurance? Eh ouais, mais mon frère et soeur, de l'assurance. Vous pourriez prendre le temps de recenser dans la Bible tous les versets qui nous parlent de l'assurance qu'un juste peut avoir. J'en ai marqué, on va le lire. J'ai pensé qu'il était souhaitable que je commence cette exhortation avec ces versets. Je vous encourage à prendre des notes, parce que c'est pas possible, vous ne pourrez pas vous ressouvenir intellectuellement de tous les versets que je vais vous laisser. Mais c'est évident, ce sont des versets, si vous les méditez, qui vous aideront à vivre ce qu'on va partager ce soir. Proverbes chapitre 8, versets 34 à 35. Regardez bien ce verset. Des versets comme ça, il y en a plein dans toute la Bible. Parce que Dieu a voulu qu'il y ait ces versets pour que nous ayons de l'assurance. Vous avez envie d'avoir de l'assurance? Proverbes 8, verset 34. « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Voilà, ça c'est un des versets que j'ai appris par cœur. Parce que chaque jour, quand je fais mon culte, j'y pense. Celui qui veille chaque jour et qui garde la parole, il obtient la faveur de l'Éternel. C'est la vérité. Par contre, la suite, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Des versets comme ça, alors rien que dans les proverbes, j'ai pensé ce matin, proverbe chapitre 2. Mais c'est une expérience, vous pouvez avoir un petit carnet, moi je l'ai ça, un petit carnet avec plein de versets qui vous rappellent ces vérités. Parce que une exhortation sur la prière, comme je vais vous la faire ce soir, elle doit nous amener à vivre dans l'assurance, dans un monde complètement déglingué, enténébré, emprisonné, attiré par la colère de Dieu. Croyez-moi, les chrétiens peuvent marcher dans l'assurance. Proverbe 2, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, pas si tu vas à l'église écouter une prédication qui est intéressante, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, mais regardez bien, tu trouveras la connaissance de Dieu. » Ça vous intéresse de connaître Dieu davantage? De le connaître davantage? Si tu la cherches comme l'argent, on vous dirait, vous savez au fait, sur le terrain que vous avez acheté, il y a une boîte avec 30 millions d'euros, mais elle est à mettre sous terre, mais on ne sait pas où elle est. Qu'est-ce que vous feriez? On vous dit que dans votre terrain, il y a une boîte avec 30 millions d'euros dedans, mais elle est sous terre à 1 mètre. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais à Likiloutou, je loue un tracteau et je dis défoncez-moi le terrain et même la maison. Oui ou non? Pour 30 millions d'euros, est-ce que ça vaut le coup de défoncer la maison? Ben oui. Mais mes frères et sœurs, si on avait compris qu'en cherchant les commandements, les prophéties, les promesses, c'est mieux qu'un trésor. Le problème, c'est qu'on ne le croit pas. On attend, on veut la bénédiction, parce qu'on sait très bien qui bénit. Mais si notre connaissance de Dieu s'arrête à ça, c'est sûr qu'on ne va pas bien loin. Dans des versets comme ça, il y en a plein. Regardez au-dessus, rien que le verset 33 du chapitre 1er. Celui qui m'écoute, pas qui va à l'église, hein. Celui qui m'écoute, donc qui m'obéit, reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Vous le croyez ça? Et des versets, mais vous pouvez les recenser, les apprendre par cœur, et chaque matin les méditer. Je vous assure que vous développerez cette véritable assurance. Moi, je trouve que c'est beau dans une église quand les chrétiens ont de l'assurance. Quand vous voyez des chrétiens qui sont, comme, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit, mais vous ne devez pas marcher comme les païens. Il y a des chrétiens qui sont exactement comme les païens. Je vous dis pas le témoignage que ça donne dans une église. Je ne dis pas qu'on peut parfois être éprouvé et courbé même, mais on peut être dans l'épreuve et quand même avoir la paix du Seigneur. Alors, l'Église, elle est en danger. Quand on voit les questions que Jésus pose, l'Église de la fin des temps, j'en ai parlé par rapport à la prophétie de dimanche matin, la question que Jésus pose dans Luc 18, vous connaissez la parabole? Vous connaissez cette parabole dans Luc 18? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut quoi? Vous pouvez me répondre, hein? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il donne une parabole. On en avait besoin. Il la donne à l'Église, il la donne aux chrétiens, une parabole pour montrer qu'il faut. Vous aimez les impératifs, au fait? Il faut. Vous aimez les, vous préférez, il se peut? Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Donc, il donne une parabole pour expliquer que, puisque Dieu a fait des promesses, même, il y a des textes de loi, c'est pareil, c'est comme dans le code civil. Il y a des textes de loi et c'est pour nous. Et à la fin, alors qu'il dit qu'il va bénir, il pose une question. C'est terrible parce qu'il dit, moi, je vous dis que Dieu vous exaucera. Mais voilà, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, donc ça concerne la fin des temps, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Alors, comment pouvons-nous chanter des cantiques aussi merveilleux comme ce soir? On a chanté des beaux cantiques. Est-ce que c'est beau de chanter Dieu a une armée qui se lève? Oui ou non? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Debout, sainte cohorte, soldat du roi des rois. Vous avez vu ces deux cantiques? C'est des cantiques de victoire, de combat, de chrétiens engagés. C'est des beaux cantiques quand même. Franchement, c'est des très beaux cantiques. Mais comment pouvons-nous les chanter sérieusement si nous ne prions pas? Comment pouvons-nous chanter? C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. Comment on peut chanter des paroles où l'Esprit de Dieu va diriger les pas des chrétiens si l'Église n'intercède pas? Je vous avais fait une prédication il y a 2 ou 3 ans sur le psaume 78, où il est dit que les chrétiens, ils sont comparés à des soldats armés et tirant de l'arc, qu'ils ont tourné le dos le jour du combat. Et Dieu pourrait adresser ce message dans beaucoup d'églises sur la surface de la terre. Vous êtes armés parce qu'on a les armes. Si Dieu nous demande de combattre, il ne nous laisse pas désarmés. Oui, désarmés, en un seul mot. Il ne nous laisse pas désarmés. Si on doit combattre, on a toutes les armes, à nous de les utiliser, bien entendu. Alors ils ont tourné le dos au jour du combat, c'est terrible. On va voir combien c'est terrible. Et la pensée de Dieu est toujours la même. Il y a une prophétie qui a été donnée dans Ésaïe 56. Voilà, c'est le titre de ma prédication. Alors, Ésaïe 56, Dieu a donné des prophéties. J'ai fait la différence. Je pense que quand on lit la Bible, ce serait bien que vous appreniez, que nous apprenions, si c'est un texte d'évangélisation, si c'est de l'édification, si c'est de l'édification, etc., des avertissements, des conseils, si c'est des prophéties ou si c'est vraiment des textes comme celui-ci. Regardez, Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Vous voyez combien Dieu nous indique la joie qu'il peut y avoir de prier ensemble. C'est sûr, quand on va être exaucé, il peut y avoir de la joie. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Donc, il y a 2800 ans, ça date de 2800 ans. Dieu dit, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ou pour toutes les nations en fonction des versions. Ma maison sera appelée une maison de prière. 8 siècles après, Jésus vient, exerce son ministère avec la beauté qu'on sait, etc. Et il rappelle cette prophétie. C'est dans Matthieu au chapitre 21. Il rappelle cette prophétie. Pourquoi ? Eh bien pour qu'on se sache bien que Dieu n'a pas changé d'avis, que dans la dispensation de la grâce, ça sera également la volonté de Dieu, sa maison sera une maison de prière. Vous voyez, quand les choses sont répétées, c'est pour que l'on comprenne bien que c'est toujours la volonté de Dieu que la maison du Seigneur soit une maison de prière. Matthieu 21, verset 12. Des fois, on se demande, tiens, pourquoi c'est répété ? Il y a des textes qui sont répétés et d'autres non. Eh bien, ça veut dire que Dieu pense toujours pareil, bien sûr. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Donc, le Seigneur n'a pas changé d'avis. Vous pouvez garder ce texte parce qu'on y reviendra à la conclusion. Donc, Dieu pense toujours la même chose. Il y a 2000 ans que Jésus a donné cette prophétie et ça nous amène dans la connaissance. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que c'est, Seigneur, ta volonté ? Quelle est ta volonté ? Ça vous arrive de prier, Seigneur, mais je voudrais connaître ta volonté. Ça vous arrive ? Eh bien, vous l'avez. Vous l'avez là. Dieu demande ce qu'il faut. Il dit, ma maison sera une maison de prière. Voilà, c'est tout indiqué. Moi, des fois, peut-être que je suis trop simple, mais il y a des gens qui sont là, ils se battent, ils se débattent. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, c'est indiqué. Ma maison sera appelée une maison de prière. Je rappelle, c'est Dieu qui parle. Le grand Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, celui qui s'appelle le Tout-Puissant, El Shaddai, et tous les attributs qu'on lui connaît. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je l'ai déjà dit, il n'a donné qu'un nom à sa maison. Est-ce que Jésus aurait pu donner plusieurs noms à sa maison ? Oui, mais bien sûr. Dieu aurait pu donner, ma maison sera une maison d'enseignement, oui, etc. Dieu dit, non, ma maison, ça sera une maison de prière. La chose la plus importante dans la vie de piété à réaliser, c'est une vie de prière. S'il y a bien quelque chose que Dieu veut, que l'on bichonne, que l'on travaille, c'est cette vie de prière, pas des prières hypocrites, pas la prière des païens, la prière des publicains, comme Jésus dit, mais ne priez pas comme les hypocrites, etc. Réciter des prières, tout ça, ça ne sert à rien. Je parle d'une prière, la prière du juste, la prière fervente, qui fait mouvoir le bras de Dieu. Ces textes devraient nous faire réfléchir. Ces textes devraient nous convaincre, et nous convaincre vraiment. Il y a des gens qui disent, oui, je sais que je dois prier. Quelqu'un hier me disait, il y a une chose que je sais, je ne prie pas assez. Cet après-midi, quelqu'un, je ne prie pas assez. Le Seigneur me l'a montré, c'est quelque chose que je néglige. J'aime la prière, je prie, mais je ne prie pas comme Dieu le voudrait. C'est pas moi qui l'ai demandé, c'est lui qui me l'a dit tout à l'heure. Donc pour tous les peuples, il n'y a pas de nation privilégiée, c'est pas pour les juifs. Il y a des gens, des fois, ils sont dans le culturel, vous voyez. Une dame, un jour, elle est venue, elle est là d'ailleurs, je crois. Elle est venue, elle me dit, il y a une amie à elle, qui est africaine aussi, qui lui a dit, « Ah, toi, tu vas dans l'église des Blancs. Moi, je vais dans l'église des Blacks. » Mes frères et sœurs, il n'y a pas d'église des Blancs, il n'y a pas d'église des Blacks. Il y a l'église du Seigneur. Et quand on commence à parler comme ça, c'est la preuve qu'on cherche plus la culture que la spiritualité. Est-ce que vous comprenez ? C'est l'église du Seigneur. Il n'y a pas une église de blancs, de marocains, d'égyptiens. Bien sûr qu'il y a l'église égyptienne, il y a l'église marocaine, mais il n'y a qu'un seul corps. Et quand on commence à chercher, moi j'ai besoin d'une église ethnique, je suis vietnamien, donc il me faut me retrouver avec des vietnamiens, ils me comprennent, il y a un truc qui ne va pas. Que vous vous retrouvez dans une association de vietnamiens pour manger vietnamien, parce que la cuisine vietnamienne, c'est peut-être mieux que le cassoulet, je suis d'accord. Quoique, je peux le défendre l'inverse, frères et sœurs, mais on ne cherche pas une église en fonction de sa culture. Toutes les églises du Seigneur doivent être une maison de prière, quelles que soient les nationalités qui la composent. C'est important, parce que des fois on me l'a dit ça. J'ai entendu de ces trucs, et je crois qu'il faut l'expliquer. Alors beaucoup, aujourd'hui, beaucoup d'églises ont abandonné la prière pour les activités sociales, pour les activités, pour l'animation, pour les kermesses. Il y a des églises où on a abandonné complètement la prière et on fait du social. Il y a même un pasteur de chez nous qui disait dernièrement, depuis qu'on a arrêté les réunions de prière et qu'à la place on fait des jeux de société, eh bien on a davantage de monde à la réunion. Vous voyez ? Eh bien c'est bien, oui, ils jouent aux échecs. Ils jouaient aux échecs. À l'époque où cette prophétie a été donnée, il y a 2800 ans, c'était donc du temps de Salomon, etc. C'était une maison de prière. La maison de prière, c'était le temple de Salomon. Vous êtes d'accord? On entre dans le vif du sujet, c'était l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le sujet. Et dans cette maison, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit qu'il voulait bénir. Vous vous rappelez la dédicace du temple de Salomon? Vous vous en rappelez? Allez, on y va. Deux Chroniques, chapitre 7. Dieu parle. Ah, Salomon a prié, ils ont construit le temple. Donc, il y a Dieu dit... Dieu donne son approbation. C'est bien quand il y a l'approbation de Dieu, non? C'est bien, c'est l'approbation de Dieu. Alors, dans 2 Chroniques, au chapitre 7, Dieu répond. Croyez-moi, Dieu répond. Et Dieu donne son approbation. On va lire à partir du chapitre 2 Chroniques 7. On va lire du verset 11 au verset 16. Mais vous pourrez relire les autres textes où on voit cet amour de Dieu, vraiment. Il y a ce Père qui prend soin des siens. C'est beau. Alors, on va lire quand même les quelques versets. 2 Chroniques 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux, regardez bien, Dieu parle de ses yeux, de son regard. Le regard de Dieu, on en parlait tout à l'heure avant la prière, lorsque Jésus a vu les apôtres qui se débattaient sur la mer, il les voyait. Mes yeux seront désormais ouverts, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Regardez bien, j'ai souligné moi la fin du verset. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Dieu qui dit, écoute-moi bien Salomon, tu vois, sur ma maison, quand elle sera une maison de prière, si mon peuple prie, cherche ma face, s'humilie. Si mon peuple prie quelque péché dans lequel duquel il se serait enfermé, il y aura toujours, c'est une promesse, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Franchement, c'est pas beau? C'est quand même, c'est extraordinaire. Et nous, aujourd'hui, bien sûr, c'est plus le temple de Salomon. Le temple a été détruit. C'est ce qu'on va voir ce soir. Là où Dieu avait dit, mais écoute-moi Salomon, il y aura toujours mes yeux. Dieu a été obligé de détourner ses yeux et de détruire sa maison. Aujourd'hui, la maison du Seigneur, c'est qui? C'est qui la maison du Seigneur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Sa maison, c'est nous. On peut lire deux versets. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut prendre des notes. On va retracer cette prédication et vous aurez l'occasion de la lire et de la relire. Mais on va prendre deux ou trois textes. Tant pis si je suis un peu plus long ce soir, mais c'est pour que nous comprenions bien l'ensemble de ce que c'est une maison de prière. Hébreux 3, versets 5 à 6. Voilà. Là, il est parlé de... vous allez voir, c'est tout simple ce que je vais vous dire. Hébreux chapitre 3, verset 5. Pour Moïse... il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, qu'est-ce qui est écrit? C'est nous. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Vous comprenez bien que, oui, les chrétiens, ce soir, nous les chrétiens, pas le bâtiment 9 rue Saint-Guilhem. Nous les chrétiens qui obéissons à sa parole, nous sommes sa maison, nous sommes des pierres vivantes. Gloire à Dieu. Nous sommes sa maison. On peut lire un autre texte dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. C'est important, mes frères et sœurs, parce que beaucoup d'églises ne prient plus parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était la maison de prière. Éphésiens chapitre 2, verset 19. 19 à 22. Éphésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous sommes sa maison. » Ailleurs, il dit à Timothée, Paul, il dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que je vous dis, je pourrais le donner comme exhortation à des pasteurs, parce que c'est de l'étude en même temps que c'est de l'exhortation. Alors, nous sommes sa maison. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, ce n'est plus le temple de Salomon. Hélas, il a été détruit. Il va être reconstruit après l'enlèvement de l'Église. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, on vient de parler de sa maison, maintenant de la prière. C'est quoi la prière? Parce qu'il y a des gens, mais c'est quoi, Monsieur Gault, la prière? 3 ans de conversion, moi je trouve que c'est quand même, c'est quoi une prière? De quelle prière s'agit-il? Ma maison sera une maison de prière. De quelle prière Dieu parle-t-il? Ben de toutes les prières. Le dimanche, je viens, je loue le Seigneur pour le pardon de mes péchés. Je le fais à haute voix, je le fais dans mon cœur. C'est ça la prière. C'est quoi la prière? Un chrétien qui adore, vous êtes dans la voiture, vous adorez Dieu, Seigneur, je te remercie parce que j'ai pu m'acheter une voiture. Est-ce que c'est une grâce d'avoir une voiture? Ou est-ce que vous râlez dans les bouchons? Mais mes frères et sœurs, est-ce que c'est une grâce d'adorer Dieu dans la voiture ou partout? C'est ça la prière. Un chrétien qui prie en silence, il est là, il élève jamais la voix, mais est-ce que c'est une prière? Est-ce qu'on peut prier dans le silence? Est-ce qu'un chrétien qui contemple Dieu, il est là, il est peut-être dans son lit, il pense à Dieu. Personne ne le voit, sa femme à côté peut-être croit qu'il dort, mais il contemple Dieu. Est-ce qu'on peut contempler Dieu dans le silence, le noir, dans la nuit? Est-ce qu'on peut contempler Dieu? Être émerveillé devant sa création. Tiens, je vois. Moi, je regarde les étoiles. L'autre fois, je regardais Mars. Je me dis, on dirait qu'elle ne bouge pas. J'ai regardé sur ma tablette. Vous savez à quelle vitesse elle tourne, Mars? À quelle vitesse dans l'écliptique? 84 000 km/h. Et pour nous, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle ne bouge pas. C'est merveilleux. Et j'étais là, je dis, Seigneur, ça tourne vite, on ne voit rien. Et j'admirais, parce que je sais quand même que ça vient de lui, je pense. L'admiration, enfin, je ne vais pas vous parler de ça. Le pécheur qui vient, il est là dans son péché. Il est embourbé dans son péché. La prostituée qui vient, qui a la marre de sa vie de débauche, est-ce qu'elle peut prier, dire « Seigneur, je te demande pardon pour mon péché ?» C'est ça la prière. Le rétrograde qui revient, il a pris le baptême il y a 10 ans, et puis il est retombé dans le péché, il est là, il est malheureux. Est-ce qu'il peut prier dans la maison de Dieu et dire « Seigneur, je te demande pardon, je reviens ?» C'est la prière. Quand on supplie Dieu, comme tout à l'heure plusieurs l'ont fait, pour le salut des âmes, c'est de la prière. Quand on prie pour le gouvernement, avec peut-être un peu plus de recul, mais on le fait. Sans peut-être une grande compassion, mais on le fait. C'est de la prière. Alors, je ne vais pas parler toute la soirée de ce qu'est la prière, mais dès qu'on élève la voix vers Dieu pour le louer, l'adorer dans le silence, à haute voix, dans l'exaltation, pas l'excitation, dans l'exaltation ou dans le recueillement, tout ça, ce sont des prières. Et Dieu veut. Écoutez bien, mes frères et sœurs, parce qu'on a tellement ne pas voulu froisser les gens pour les conserver dans une pseudo-piété qu'on n'ose pas dire les choses. Dieu veut que ses enfants prient. C'est écrit, je veux que les hommes prient. Des fois, les gens, je ne sais pas, c'est à quoi Dieu m'appelle, je suis sauvé, ça fait un mois que j'ai pris le baptême, je ne sais pas ce qu'il me faut faire, je joue un peu de musique, mais quand même, je ne suis pas prêt, je ne sais pas faire des visites, j'ai peur de dire des bêtises. Mais une chose est sûre, quand quelqu'un se convertit, il devient un intercesseur, un prieur. C'est quelque chose d'important. Dieu veut entendre dans sa maison, même si ce n'est pas haute voix, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais Dieu veut entendre toutes sortes de prières, des actions de grâce, de la louange, de l'adoration, des repentances, des supplications, etc., tout ce qui est écrit, de l'admiration. C'est important d'admirer le Seigneur. On l'appellera admirable. On doit l'admirer. On doit le remercier pour tout. Et vous comprenez bien, mes frères et sœurs, sans alourdir tout ce que je viens de dire qui est intéressant, que Satan va tout faire pour empêcher cela. Vous le comprenez bien. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste de la théologie. Il va empêcher cette prière fervente. Il va essayer de nous amener à un niveau beaucoup plus bas, à faire de nous des hypocrites, des païens, des pécheurs. Celui qui écoute, comment c'est dit ? Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Merci, Jonathan. Et le diable, il sait, s'il peut nous amener à ce niveau de duplicité, c'est-à-dire je prie, mais en même temps je vis dans le péché, mais en même temps je suis hypocrite, etc., etc., j'ai l'apparence de la piété, le diable, il s'en fiche, vous pouvez prier 24 heures par jour, vous inquiétez pas, il vous embêtera pas, ça c'est sûr. La prière fervente, la prière pieuse, la vraie prière, je crois pouvoir dire, après 35 ans de conversion, que c'est la chose la plus difficile à réaliser dans la vie de piété. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est la chose la plus difficile, je vous assure. Parce que la prière, ça peut être un temps de rafraîchissement, mais ça peut être un combat comme un mur à défoncer. Est-ce que j'exagère? Il y a des fois la prière, c'est un bain, c'est pas vrai? C'est un rafraîchissement. Mais il y a des fois, vous avez l'impression que vous priez et vous avez envie d'arrêter. Parce que de toute façon, est-ce que j'ai pas laissé le truc dans le four? C'est pas vrai? Des fois, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas prier. Oui ou non? Et il y a un mur à défoncer. Et au bout d'un quart d'heure, on a l'impression que le mur... Oui ou non? Est-ce que oui, il y a que moi qui s'arrive? Bon, rassurez-moi quand même. Hein. Je suis chrétien avant d'être pasteur. Satan ne veut pas qu'on prie. Il faut bien le comprendre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prier. Parce qu'en fin de compte, ils n'obéissent pas à Dieu, mais ils sont soumis aux exigences de l'ennemi. Et de tout temps, parce que si nous, on ne persévère pas, laissez-moi vous dire que lui, il persévère. Je vais vous donner deux textes pour vous montrer que je n'exagère pas. Regardez dans Ésaïe, chapitre 14. Alors, on va voir deux ou trois textes, ça fait peur. Ésaïe 14, versets 12 à 14. C'est un texte qui nous parle de la chute du diable à cause de son orgueil et de sa rébellion. Voilà, ce chapitre-là, d'Ésaïe. Regardez ce qui est dit du diable. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Regardez bien. « Tu disais en ton cœur. » Vous savez, il n'y a pas besoin de parler parfois pour parler. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée. » À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Vous avez vu l'orgueil de Satan. Et ça, c'est vieux, je vous ai dit. Ça a été écrit il y a 2800 ans, mais ça date dès la chute de Satan. Donc, ça date de très, très, très longtemps. Donc, voilà, il y a plusieurs verbes qui indiquent, bon, on ne va pas le faire ce soir, mais qui indiquent cet orgueil, je monterai, je lèverai, je m'assierai, etc. On voit des verbes actifs qui montrent que le diable a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Regardez dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, quelque chose qui va arriver. Vous savez, il y a des chrétiens, si persévérés comme le diable persévère, je peux vous dire qu'ils seraient forts, parce que le diable, croyez-moi, il ne lâche pas le morceau. Regardez ce texte. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on pourrait lire le verset 3 et 4. Ça fait peur. C'est après l'enlèvement de l'Église, quand le troisième temple aura été reconstruit, que l'Antéchrist apparaîtra, surtout dans la deuxième partie de la grande tribulation, où il ira s'asseoir. Regardez bien. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, dont c'est le diable, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. » Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il réussit à faire? Vous voyez qu'il a persévéré, lui. Il va s'asseoir, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous avez vu s'il persévère, lui? Ça fait. Il lâche pas le morceau malgré tout ce qui se passe. Il veut. Alors tout ça, bien sûr, Dieu le contrôle. Si Dieu n'avait pas voulu, Dieu ne le permettrait pas. Mais il n'a pas changé d'avis, lui non plus. Et il veut détruire l'œuvre de Dieu. Et la meilleure façon de détruire l'œuvre de Dieu, c'est d'empêcher la prière. Alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est pour expliquer quelque chose d'absolument important. Alors on va lire deux textes maintenant. Et quand je vous dis que ces deux textes, j'aimerais qu'ils ne soient pas dans la Bible, vous allez comprendre pourquoi. Deux Rois chapitre 23. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous comprenez bien que s'ils sont dans la Bible, c'est qu'on en a besoin. Mais ça aurait pu être évité si le peuple de Dieu avait agi autrement. Deux Rois chapitre 23 verset 4. Regardez ce qu'on avait introduit dans le temple. Et je ne vais pas faire le rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde croyant. Mais vous pourrez vous le faire, je pense que c'est à votre portée. Deux Rois, chapitre 23, verset 4. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, au sacrificateur du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, regardez bien, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles établies par les rois de Juda pour brûler des parfums dans les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux, dans la maison de Dieu. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées, prostituées et S, donc c'était des hommes. C'est important, quoi. Il faut le dire. Les prostituées, quand c'est une femme, c'est E.S. bien sûr, qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Un autre texte, Ézéchiel chapitre 8. Vous allez bien comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que j'aurais bien aimé que ces textes n'y soient pas. Ézéchiel, chapitre 8, verset 5. Moi, c'est des chapitres. Le problème, c'est que j'en ai pris deux, mais il y en a plein. Je vous parlais tout à l'heure de recenser les versets qui parlent de l'assurance. Ça, c'est bien qu'il y en ait plein. Mais des chapitres comme ça, des morceaux de chapitres, il y en a plusieurs. Et ça, je vous assure, ça fait mal au cœur quand même. Ézéchiel, chapitre 7, si vous avez vu comment ça se passe avec Ézéchiel, pourquoi la gloire est sortie du temple, ben c'est facile à comprendre avec un texte comme celui-ci. Ézéchiel, chapitre 8, verset 5. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion, c'est-à-dire du nord. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. » Oui, rien que ça déjà. L'idole de la jalousie dans la maison du Seigneur. Tu te dis, mais non, mais attends, mais franchement. Tiens, ça peut arriver. Je vous ai dit tout à l'heure que vous-même, vous pourriez faire le rapprochement de ce qui pourrait se passer aujourd'hui dans l'église. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Regardez la suite. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Vous vous rappelez ce qu'on a lu tout à l'heure? Il y aura toujours mes yeux. Et il y aura toujours mon cœur. Mais voyez ce qu'ils ont fait? Et Dieu dit, ça m'a éloigné de vous. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Et là, ça ne s'arrête pas là. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille, et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, donc des serviteurs de Dieu, aujourd'hui ce seraient des pasteurs, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Vous voyez le discernement des frères. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz, encore des divinités païennes. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient, devant le soleil. Alors oui, on peut dire amen au texte, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu a voulu que ces passages soient dans la Bible? Ils sont là, ces passages. Et j'en prends que deux. Est-ce qu'on en prend d'autres? Qu'est-ce qu'ils avaient réussi à faire? Qu'est-ce que le diable avait réussi à leur faire faire, à ses serviteurs? À implanter des idoles dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il ne faut pas être là pour les juger, dire « Ouais, c'est grave, c'est pas bien ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le cœur de ma prédication ce soir. Tout ça pour vous dire ce que je vais vous dire maintenant. C'est que lorsque l'on ne prie pas, lorsque l'on ne prie plus, il y a un déclin. C'est pour ça que Jésus a dit « Ma maison sera une maison de prière ». On peut faire tout ce qu'on veut dans une église, si on ne prie pas, il y aura un déclin. Dès qu'il n'y a plus de prière, il y a des choses affreuses, terribles, dramatiques qui se passent dans la maison du Seigneur. Vous venez de le lire avec moi et je ne prends pas le temps d'expliquer ce que ça veut dire aujourd'hui. Vous pouvez le faire de vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Ils ont fait certaines choses, de la jalousie, des idoles, des astartés, de la prostitution, etc., etc. La prostitution, elle n'est peut-être pas aujourd'hui physique, mais elle peut être spirituelle parce que celui qui aime le monde... Est-ce que Dieu compare pas ça à de la prostitution, à de l'adultère? Il ne dit pas adultère que vous êtes, c'est de la prostitution. De l'adultère, quand on aime le monde plus que Dieu. C'est la preuve qu'on aime plus, par exemple, la détente à la prière. Et je pense qu'il faut aimer la détente, bien entendu, on a besoin de se détendre, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est quand même... Je ne sais pas si ce que je vais dire, on va bien le comprendre. Est-ce que quelque part, quand on est vraiment dans la présence de Dieu, il n'y a pas une part de détente aussi? Vraiment de rafraîchissement, de bénédiction. Je suis là, je suis avec le Dieu de l'univers. Quand tu pries, Dieu te voit. Vous rendez compte, bien sûr, c'est par la foi, il n'y a pas besoin de le sentir. Que vous le sentiez ou pas, ça n'a aucune importance. Mais vous êtes avec le Seigneur de l'univers. Moi, je trouve qu'on est quand même un peu dans la détente. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on va terminer avec ça. Satan a toujours travaillé. C'est pour ça que c'est dans la Bible, en fin de compte. Pour qu'on comprenne que Satan, il fait tout pour nous empêcher de prier. Car dès qu'on ne prie pas, on installe dans la maison de Dieu autre chose qui va faire que Dieu va s'éloigner. Et on peut chanter à tue-tête, comme je l'ai vu dans des rassemblements où j'ai même participé. Il y avait un cantique qu'on chantait avant dans les rassemblements de jeunesse, même si j'étais plus jeune. On chantait « Les murailles s'écroulent à terre ». Les murailles s'écroulent à terre. Alors il fallait les rayons de jeunesse, il fallait que les jeunes s'expriment. Alors tout le monde tapait. Et les murailles s'écroulent à terre. Et moi, franchement, je disais, le diable, il doit rire. Vous croyez pas? C'est écrit. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que on peut faire la joie de l'ennemi? Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible qui en parle? Non mais ça fait peur quand même. Est-ce qu'il y a des textes qui montrent que le peuple de Dieu peut faire la joie de l'ennemi? Ouais, lisez-le. Vous voulez le lire avec moi? Lamentation de Jérémie. Ça fait peur ça, parce que nous on pense qu'on fait la joie de Dieu, mais je peux vous dire que quand on n'obéit pas, on ne fait pas la joie de l'ennemi, de Dieu, croyez-moi. C'est un verset, moi je l'ai surligné parce qu'il m'a fait peur quand je l'ai lu, je dis c'est pas vrai, jusqu'où ça peut aller. Lamentation de Jérémie chapitre 2, verset 17. C'est la fin du verset. Par rapport à la désobéissance, bien sûr. Ils ont vécu dans le péché. Si vous avez lu les Lamentations de Jérémie, vous savez, il n'y a pas besoin de le lire, vous le savez. Lamentations de Jérémie, chapitre 2, la fin du verset 3. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Et on le voit plusieurs fois dans la parole de Dieu, qu'à la place de faire la joie du Seigneur, on a fait la joie de l'ennemi, parce que on a introduit le péché dans la maison du Seigneur. Et on peut chanter tant qu'on voudra, « Règne en moi ». Il est beau ce cœur, « Règne en moi », non? Est-ce qu'il est beau? « Règne en moi ». Vous le connaissez? Eh bien, vous voulez que Dieu règne? Eh bien, obéissez. Vous n'avez plus besoin de chanter le cœur. Mais vous pouvez le chanter pendant 100 ans, tant que nous n'obéirons pas, Dieu ne règnera pas. Dieu règne, dès qu'on obéit, Dieu règne dans notre vie. Et c'est important, mes frères et sœurs, sinon l'ennemi, il ricane. Il ne va pas rire pour toujours, c'est clair. Mais je peux vous dire que quand on voit certains textes bibliques, l'ennemi se frotte les mains. Quand une église ne prie plus, quand je vois qu'il y a plein d'assemblées. Je me rappelle quand je me suis converti, j'étais curieux, je voulais savoir pourquoi il y a des évangéliques, pourquoi il y a des baptistes, pourquoi il y a des protestants. Et on me disait, je me rappelle, un chrétien me disait, tu sais, les protestants, ils sont morts. Ils sont morts, les protestants, parce qu'ils font plus d'évangélisation et ils ont plus de réunions de prière. Ben, vous voyez, 35 ans a passé et il y a beaucoup de nos églises qui n'ont plus de réunions d'évangélisation et qui n'ont plus de réunions de prière. Vous voyez comment ça peut aller vite. Alors on comprend pourquoi il y a plusieurs dénominations en vérité avec ces choses-là. Mais mes frères et sœurs, quand le Seigneur dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, alors je l'ai expliqué dimanche, toujours prier, ça ne veut pas dire qu'il faut être à genoux 24 heures sur 24. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances, je dois prier. Je suis en bonne santé. Bien sûr que quand je suis malade, est-ce que je peux prier comme quand je suis en bonne santé? Mais non, mais est-ce que je ne peux pas quand même, par des soupirs inexprimables, intercéder? Oui ou non? Est-ce que c'est écrit que l'esprit intercède par des soupirs? Eh bien, on peut, même si on est fatigué, ça vous est jamais arrivé de soupirer devant Dieu? D'être malheureux, malheureux, malheureux? Oh Seigneur, tu vois, mais on n'a pas envie de prier. On prie quand même, par des soupirs. Alors quand on est riche, on peut prier quand on est riche? Ah, il y a des gens qui sont riches, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de prier. Si j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire. Il me faut aller manger mon heure de jogging. Et puis après, j'ai une heure chez le kiné. Et puis après, j'ai une heure, on peut aller au théâtre. Puis quand je suis pauvre, mais quand je suis pauvre, j'ai pas le temps de prier. J'ai pas à cœur de prier, j'ai pas un grand, tu crois que j'ai poussé. Quand on est pauvre, quand on est riche, quand on est instruit ou pas, il faut prier. Vous comprenez, mes frères et sœurs, ne vous mettez pas en tête que vous avez l'autorisation de ne pas prier. Vous allez me dire, mais moi, je suis un homme d'affaires, je suis pris, je travaille, monsieur Gault, 16 heures par jour, j'ai que 20 minutes à prier. Eh bien, utilisez-les, ces 20 minutes. Utilisez-les. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un n'ait que 20 minutes? Est-ce que ça pourrait s'arriver? Moi, je pense que oui. Eh bien, moi, mais ces 20 minutes, je veux qu'elles soient de qualité. Je vais prier. Et je crois que Dieu, comme par hasard, vous aidera peut-être le mois prochain à avoir 25 minutes. Je le pense vraiment. On doit prier. On doit prier parce que des frères sont en danger. Comme Mme Bourdel priait tout à l'heure pour des pasteurs qui sont fatigués. Je sais ce que c'est. Moi, j'ai failli arrêter le ministère. Et je vous assure, j'aurais eu une femme mondaine. Je peux vous dire que j'aurais arrêté le ministère. Parce que ça faisait 6 mois que je me préparais à arrêter le ministère. Même plus. Je dis 6 mois, mais c'était, vous savez, 6 mois intenses. Je vous l'avais déjà raconté. J'étais dans mon bureau, je faisais que pleurer, je faisais que prier. Quand je ne priais pas, je pleurais. Quand je ne pleurais pas, j'étais découragé. J'étais tout le temps en vrac, tout le temps. Et je prêchais, personne n'y voyait rien. Personne. L'hypocrite, parfait. Non, je n'étais pas hypocrite, mais je n'avais pas envie qu'on me pose des questions. Et un jour, j'étais en train de prier, je dis, t'arrêtes le ministère. Mais j'en mourais d'envie. J'en mourais d'envie. Et ce jour-là, j'ai pris la décision. T'arrêtes le ministère. J'en pouvais plus. Je vous dis pour que vous compreniez les combats. Et je ne riais pas. Hein. Et je me suis préparé parce que je me dis, il faut qu'Isabelle soit d'accord. Je savais qu'Isabelle allait réagir. Et je me lève. Et là, le Saint-Esprit me dit, si tu arrêtes le ministère, tu connaîtras l'expérience de Jonas. La même ferveur. Je m'en vais, je vais à la maison, il y avait Isabelle. Je me rappelle, elle était en train de couper du poisson. Je m'en rappellerai toute ma vie. Il y avait son petit couteau, là, son couteau. J'ai dit, Isabelle, il faut que je te parle. On est à la cuisine. Écoutez bien, hein, ça ne tenait pas à grand-chose. Hein. Isabelle, il faut que je te parle. Patate, je lui ai fait un gros speech, voilà, tout. Si on arrêtait le ministère, elle travaillait avec mon père, elle gagnait plein de sous en plus. Si tu retournais travailler avec mon père, c'est que mon père, ça lui ferait plaisir, tatati, tatata, on gagnerait des sous. Patati, patata, pendant un an, on pourrait arrêter le ministère, le temps de faire un break. J'étais épuisé, j'en pouvais plus. Et je me rappelle, elle prend son petit couteau, elle me regarde comme ça, elle me dit, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais vous savez, j'ai envie de pleurer de reconnaissance, parce que, heureusement que Dieu a parlé ce jour-là. Écoutez bien. Elle m'a écouté, elle m'a regardé, parce qu'elle voyait que j'étais malheureux, elle me connaît quand même. Elle me regarde, elle me dit, Gérard, si tu arrêtes le ministère, tu connaîtras l'expérience de Jonas. Alors, j'ai dit, c'est bon, on me l'a déjà dit. Alors, je me rappelle, je suis reparti, mais ce jour-là, je vous assure, ce jour-là, s'il n'y avait pas eu cette parole, j'arrêtais le ministère. Et peut-être que c'était bien que je le continue. Mes frères et sœurs, on ne s'imagine pas, on doit prier. Parce que peut-être à l'autre côté de la ville, peut-être que dans la, au nord de la France, en Polynésie, c'était en Polynésie, j'ai vécu des choses archi difficiles. Et pourtant, Dieu, il n'y a que Dieu qui sait comment j'aime ce pays et comment je donnerai ma vie pour ce pays. Mais mes frères et sœurs, il faut prier. Il faut prier pour les pasteurs. Il faut prier pour les meneurs de chant. Je ne sais pas si vous le faites. Peut-être que vous êtes négligent. Eh bien, ce n'est pas bien. Il faut prier pour que Dieu règne dans sa maison. Vous savez, moi, ça fait une semaine, écoutez bien, ça fait une semaine, tous mes entretiens, Monsieur Go, je veux mettre ma vie en règle avec Dieu. Monsieur Go, je veux me faire baptiser. Monsieur Go, je veux sortir du monde. Tout, ça fait 15 jours. Est-ce que vous trouvez que c'est une bénédiction? C'est pas ça l'Église du Seigneur? Ça fait, depuis 15 jours, il n'y a que ça. Quelle bénédiction! C'est bien la preuve que le Saint-Esprit agit. C'est bien la preuve qu'il faut faire quelque chose. Si nous voulons que Dieu règne, il ne faut pas chanter Dieu règne parce qu'on a des cantiques avec une mélodie formidable. Mais ça ne sert à rien. Si on veut que Dieu règne, il faut obéir. Il faut qu'il règne, mes frères et sœurs. Et quand je prie, selon les formes que j'ai évoquées tout à l'heure, eh bien, quand je prie, je permets à des gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand je ne prie pas, j'empêche des gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous allez me dire, oh, mais monsieur Go, ça ne tient pas à ça? Si! Quand je prie, je permets à des gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Si je prie là, ce soir, demain matin, pour le service de baptême qui aura lieu dimanche après-midi, je permets à des nouveaux de venir. Est-ce que vous le croyez ça? Je permets peut-être à un monsieur, un converti, à d'autres qui n'ont rien convertir, de venir. Mais ça se fera. C'est comme ça, vous croyez, mais c'est pas possible, ça ne dépend pas de nous. Dieu a mis la responsabilité sur l'Église. C'est comme ça. Faites des disciples. Mais on ne le fait pas avec notre force, on le fait par le Saint-Esprit. Et pour que ce soit par le Saint-Esprit, il faut le faire par une prière qui soit vivante. C'est pour ça, si vous avez dans votre famille déjà un converti, priez. Vous vous rappelez quand Abraham a appris, parce que quand les gens qui sont en communion avec Dieu, ils savent. Abraham apprend par Dieu qu'il va envoyer le soufre sur Sodome. L'autre, lui, il est trop préoccupé, il a trop de responsabilités, il n'est pas au courant. Mais tonton, il est au courant. Et qu'est-ce qu'il fait tonton? Il prie. Et il dit à Dieu, parce qu'il le connaît. Alors attention dans les prières. Et il dit, mais Seigneur, s'il y a 50 justes dans la ville, tu ne vas pas détruire la ville. Il connaît Dieu. Tu ne vas pas détruire la ville s'il y a 50 justes. Et Dieu lui dit, d'accord. S'il y a 50 justes à Sodome, je ne détruis pas la ville. Alors il connaît. Permets-moi encore de revenir à la charge. Mais je voudrais quand même te dire, quand même, bon, s'il n'y en a que 40... S'il y a 40 justes, vous connaissez l'affaire. Vous connaissez l'affaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a prié. Il a prié et Dieu a envoyé des anges chercher Lot. Il a fallu encore que les anges le tirent par la main parce qu'il n'avait pas tout à fait compris. Mais mes frères et sœurs, avant l'enlèvement de l'Église, on le sait, nous aussi on est avertis que Jésus va revenir. Vous le croyez que Jésus va revenir? Écoutez-moi, moi je vous le dis, c'est pour cela qu'il faut faire comme Abraham dit, Seigneur, tu vois ma famille, tu vois ces deux neveux, ce sont des têtes de mulets. Seigneur, envoie des anges. Est-ce que Dieu peut le faire? Mais c'est ça la foi. Moi, je ne peux pas. Si je vais leur parler, ils vont se moquer de moi. C'est pas vrai. On a parlé à des gens, ça ne sert à rien. Oui ou non? Mais vous croyez que Dieu n'a que moyen, notre témoignage verbal? Seigneur, je t'en supplie, touche mon neveu. Touche-le, s'il te plaît. Il le fera. Demandez et vous recevrez. Donc, quand on ne prie pas, on envoie l'apostasie dans l'Église. C'est pour ça que l'Église est apostate. Je ne parle pas de la nôtre, quand même. On ne va pas non plus faire les faux humbles. Mais combien d'églises sont dans l'apostasie? C'est grave, mes frères et sœurs. Quand on ne prie pas, on abandonne la foi. Quand on ne prie pas, on s'installe dans la rébellion. Il y a des chrétiens rebelles. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont rebelles par rapport aux autorités. Ils ne supportent pas le gendarme au coin de la rue. Et qu'est-ce qu'il nous fait suer, celui-là? Moi, je vais oublier le boulot. Mais c'est Dieu qui a mis des autorités partout. Mes frères et sœurs, et la prière, elle amène l'obéissance. La prière, elle amène la sainteté. La prière, elle amène la consécration. La prière du cœur, bien sûr. Alors vous allez me dire, mais moi, j'ai vraiment du mal. Je vous ai dit de garder Matthieu 21. Vous avez vu ce qui s'est passé après? Je me suis arrêté au verset... Je me suis arrêté au verset 13. Regardez bien, c'est ma conclusion. Je suis peut-être un peu plus long ce soir. Mais je pense que ça vaudra la peine que cette étude soit condensée dans un petit livret pour que les chrétiens puissent comprendre que quand on prie, on permet à ce que des âmes soient sauvées. Quand on ne prie pas, on fait des rétrogrades. On ne s'en rend pas compte. Pourquoi il y a des églises où il y a tant de gens qui rétrogradent? Mais voilà, parce qu'on ne prie pas. Regardez ce qui s'est passé. Donc, Jésus rappelle la prophétie pour qu'on comprenne tous que Dieu veut la même chose pendant la dispensation de la grâce. Et il se passe quelque chose. Pourtant, Jésus a été très sévère. Il a chassé tous ces vendeurs, tous ces croyants qui négociaient pour les sacrifices. Combien il y avait de la magouille dans la maison, il y avait du commerce, des affaires. Il le faisait peut-être pour Dieu, mais ça ne plaisait pas au Seigneur. Verset 14. Regardez ce verset comme il est beau, mes frères et sœurs. Ah, mais franchement, si vous versez une larme en comprenant ce verset, ça ne sera pas inutile. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les repoussa. Et il les guérit. Mais regardez les pasteurs de l'époque. Mais les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs des scribes furent indignés. Alors, vous savez pourquoi ils étaient indignés? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que dans le Lévitique, vous le vérifierez, alors je l'ai marqué chapitre 21, verset 18, il était dit que les aveugles et les boiteux, tous ceux qui avaient un défaut corporel, ne devaient pas rentrer dans la maison du Seigneur. C'était un enseignement par rapport à la sainteté, c'est autre chose. On ne va pas parler de ça ce soir. Donc, ils étaient indignés. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il guérit les aveugles. En plus, les aveugles, parce que quand il y a de l'ordre dans l'église, Jésus met de l'ordre dans le temple. Il rappelle sa volonté, la volonté de Dieu. Ma maison doit être une maison de prière. C'est pas étonnant que des hommes s'approchent, des aveugles, des boiteux. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il les repousse pas. Il les guérit. Alléluia. Et vous pouvez dire alléluia. Parce que mes frères et sœurs, peut-être qu'il y a... Est-ce qu'il y en a des aveugles et des boiteux dans la maison du Seigneur, au fait? Tiens donc, pour terminer vraiment. Est-ce qu'il y a des aveugles et des boiteux au niveau de la prière? Est-ce qu'il y a des gens qui sont aveugles au niveau de la prière? Mais si vous n'avez pas de vie de prière, et si vous ne voyez pas l'intérêt de prier, ben c'est que vous êtes un aveugle. Alors, et Dieu va pas vous juger. Il juge les gens qui commettent le péché et qui veulent s'enfermer dans le péché, mais les gens qui sont aveugles ou qui sont boiteux par rapport à un problème spirituel, il ne les juge pas. Il les guérit. Gloire à Dieu. Et alors les autres, ils étaient indignés parce que bien sûr, ils ne respectaient pas le protocole de l'Ancien Testament. Mais ils n'ont pas compris que Jésus instaurait la grâce et que dans la maison du Seigneur, il peut y avoir un aveugle ce soir. Je pense qu'il y en a. Un aveugle au niveau de la prière. Je ne vois pas pourquoi il faut prier. Des fois, on me dit, mais moi, prier, pourquoi vous voulez-vous que je prie? Et vous êtes aveugle. Parce que moi, je trouve que des sujets de prière, il y en a quelques-uns. Si vous priez une fois tous les quatre matins, vous êtes un boiteux. Une fois je prie, une fois je ne prie pas. Alors, Jésus les a guéris. Moi, j'aime ce texte. Et il les guérit. Ce soir, on n'est pas là pour faire un procès de l'Église. On n'est pas là pour dire, voilà, tu ne pries pas, c'est pas bien, tu devrais avoir honte. Non. Seigneur, j'ai besoin de réapprendre. Je veux que des âmes rentrent dans le royaume. Je veux que des rétrogrades viennent. Je veux que l'apostasie recule. Je n'ai pas envie qu'il y ait toutes ces idoles dans la maison du Seigneur. C'est ça l'Église. Moi, je bénis le Seigneur. Pour cette tendresse. Vous savez, on a souvent parlé de Jésus qui a chassé les vendeurs du temple. Je ne pense pas qu'il en ait blessé un. Vous croyez qu'il a fait un fouet, qu'il en a blessé? Vous croyez qu'il a blessé quelqu'un? Moi, je ne pense pas, voyez. Il n'est pas rentré dans le temple pour blesser. Il est venu pour guérir. Sur la croix, il a tout accompli. Et ce soir, on n'est pas là pour dire, ouais, c'est pas bien, je prie pas assez. Dites-le, ça m'est égal. Mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, avec une culpabilité inutile. Il peut y avoir, par contre, une culpabilité intelligente, de dire, c'est vrai, Seigneur, je vais faire des progrès. Vous êtes d'accord? Et dire, Seigneur, c'est vrai, tu m'as parlé ce soir. Moi, j'ai pas envie que tu me reproches un jour d'avoir empêché des gens d'être sauvés. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu peut nous étonner. Quand je prie. Et c'est pour ça que les disciples ont dit, mais enseigne-nous à prier, pas à réciter des prières. C'est peut-être ma prière ce soir, la vôtre. Seigneur, enseigne-moi à prier. Vous vous rappelez quand David, l'homme de Dieu, il avait une cinquantaine d'années à l'époque. Quand il a plus que foiré, et qu'il n'y avait plus de possibilité d'obtenir un pardon, même pas un sacrifice. Le seul verdict, c'était la mort. Parce qu'il avait trompé sa femme. Il avait commis l'adultère. Vous vous rappelez cette histoire? Et qu'il avait tué un de ses officiers. David, au bout de, je pense, au bout de 30 ans de marche avec Dieu. 30 ans de marche avec Dieu. David, ta honte. Il a juste dit au Seigneur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Et Dieu l'a fait. Moi, je bénis Dieu quand je vois ces histoires. Parce que franchement, Je ne sais pas s'il y a 10 ans, 20 ans que vous marchez avec Dieu, mais vous pouvez lui dire, moi le premier, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Parce que vous savez, la culpabilité, le diable, il sait la remuer pour la transformer. Mais on peut dire, tu vois, Seigneur, oui, je suis un homme d'affaires. Travaille, mais je peux quand même prendre 20 minutes. Et ces 20 minutes-là, ça va être des minutes de qualité, Seigneur. Tu me permets d'être à la retraite? Merci, Seigneur. C'est une grâce d'arriver à la retraite. Oui ou non? Eh bien, je vais peut-être m'arranger autrement. Mais moi, je ne vais pas permettre à Satan de rentrer dans l'Église et de retirer des âmes. Moi, je vais travailler pour que des âmes soient sauvées. On va prier quelques instants. Vous savez, on le fait simplement. Vous êtes d'accord qu'on lui dise? Vous croyez que le Seigneur, il peut guérir quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un? Je vais demander à un musicien de venir. On va terminer en rechantant ce cœur quand tu pries. Au nom de Jésus, peut-être on se lèvera en se prenant par la main en chantant « Je prie pour toi ». On ferme les yeux quelques instants. Je pourrais faire un appel, et je le fais, soit un appel à ce que les gens viennent sur le devant, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'à votre place, à notre place, moi à ma place ici, je peux dire « Seigneur, renouvelle à moi un esprit bien disposé ». Ouais, renouvelle-moi, Seigneur. Vous croyez que c'est une prière qu'il peut entendre ça? Vous croyez qu'il peut entendre, Seigneur, enseigne-moi à prier. Je veux pas contribuer à l'apostasie, moi. Je veux contribuer au salut des pécheurs. Et vous le verrez. Vous le verrez dimanche. Vous le verrez dimanche après-midi. Et Dieu mettra sur votre route quelqu'un qui va vous dire, eh bien, moi, j'avais pas envie de venir à l'église. Eh bien, je ne sais pas pourquoi je suis venu. Mais vous comprendrez. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'on aura contribué à ce que la maison du Seigneur soit une maison de prière. Alléluia. Prions. Je prie. Priez avec moi dans votre cœur. Voilà, c'est ça la prière. Pas besoin de s'exciter. Il faut être vrai. Pas besoin d'hurler, ça ne sert à rien. Dire tout simplement dans son cœur. Je parlerai dans mon cœur au Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour ces aveugles et ces boiteux qui se sont approchés ce jour-là. Nous voyons combien ta présence ne peut que nous attirer malgré nos handicaps. Nous aussi, Seigneur, nous avons été comme ces hommes. Nous aussi, nous avons été aveugles et boiteux. Et nous t'en demandons pardon, Seigneur. Si tu as guéri ces hommes, malgré leurs défauts, je sais que tu nous guériras aussi, si on est vrai devant toi. C'est pour cela, Seigneur, que tous ensemble, nous te disons, enseigne-nous à prier. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Vraiment, merci, Seigneur, de ta tendresse, de ta patience. Seigneur, tu vois combien on a honte parfois, et en même temps, combien on se sent attiré par toi. Nous te prions pour que cette prédication, Seigneur, qui passera sur le net, ou qui sera dactylographiée, puisse ramener des hommes et des femmes, non seulement à la croix, mais ramener des chrétiens, à faire sortir des églises l'apostasie qui a commencé à y rentrer. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir laissé ta parole, et même si ces textes sont compliqués et difficiles, nous comprenons ce que tu as voulu. Apprends-nous, Seigneur, que cette église, en tous les cas celle-là dans laquelle tu nous as placés, soit une maison de prière. Bénis les prochaines réunions. Bénis les baptêmes qui auront lieu dimanche après-midi. Seigneur, que ces jeunes frères, ces jeunes sœurs deviennent tous des intercesseurs. Seigneur, que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen.